Ce qui me manque ce matin, là maintenant, ce qui me manque et qui ne reviendra pas, sinon le temps de cette liste, là maintenant, les Pimps au chocolat blanc, Titanic, les thrillers psychologiques, les cigarettes à 10 francs, Barbara qui chantait à force d'eux une chanson sur le manque justement, le fait que rien n'était sérieux, la santé, l'amour, l'avenir, rien n'était sérieux. Ce qui me manque, c'est tout ce qu'on voulait devenir, des intellos, des rockstars, un petit peu Alaya, un peu aussi Bourdieu, puis Brandon et Brenda, les jumeaux du Minnesota. Entre deux parties de Sonic sur Sega, quand on rêvait d'être écouté plus encore que d'être entendu, quand on était indépendant, mais qu'on était d'accord sur tout, quand on croyait qu'on changerait jamais. Ce qui me manque en fait, c'est la possibilité, le monde qu'on allait faire trembler, les grands discours, les groupes, les bandes, les cercles d'amis, les meilleurs ennemis, les Twix qu'on appelait les Raiders aussi. Le jour où j'ai compris qu'on aurait d'autres vies, ce qui me manque, c'est pas la jeunesse en fait, c'est l'énergie, c'est nous et la pulsion de vie.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Que font mes invités d'aujourd'hui de l'absence, du manque? Elle est comédienne, il est cinéaste et metteur en scène. Ensemble, dans Les Idoles, ils ressuscitent sur scène de grands artistes français disparus pendant les années Sida, une œuvre d'amour, d'admiration furieusement vivante, en tournée dans toute la France à partir de janvier. Bonjour Marina Foïs.
Bonjour.
Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, parce que cette pièce, Les Idoles, ne parle peut-être que de cela. Qu'est-ce qui vous manque à vous, Christophe?
En tout cas, la question du manque, c'est aussi le fait d'être inconsolé. Et c'est vrai que par rapport à ces artistes-là qu'on évoque en fait dans les idoles, c'est si cela me manque beaucoup, mais il me manque parce que j'aimerais tellement pouvoir lire à une rentrée littéraire un roman d'Hervé Guibert. J'aimerais vraiment voir les nouvelles pièces de Coltès ou de Lagarce, les derniers films de Demy. J'aurais aimé que Serge Danet peut-être écrive un jour sur un de mes films, et puis de savoir ce que Collard serait devenu dans le cinéma français. Donc c'est vrai que leur disparition, elle a à la fois un sens évidemment tragique par rapport à leur propre vie, par rapport à leur œuvre inachevée. Mais je crois vraiment que toute cette génération d'artistes décimés par le sida dans les années 90, si le sida n'avait pas été là, je pense que la culture aujourd'hui en fait serait différente, tout simplement.
Vous partagez ces manques, Marina Foïs?
Oui, et en même temps, j'aime pas si l'idée du manque, c'est dire c'était mieux avant, alors ça me désespère et je suis contre cette idée-là. Vous parliez de Barbara, mais aujourd'hui, il y a Depardieu qui chante Barbara.
Oui.
Donc, rien ne meurt tout à fait complètement.
Dont une magnifique version d'A Force de, justement.
Ouais, absolument. À part ça, peut-être que moi, ce qui me manque d'une manière plus générale, c'est les idoles et la vie qui allait avec. C'est-à-dire que j'aimais bien avoir des gens dont j'admirais l'œuvre et dont la vie me paraissait incompréhensible, un peu terrifiante, un peu dangereuse, un peu sexy. Et aujourd'hui, quand j'entends des chanteurs qui disent qu'ils se droguent pas, qu'ils fument pas et qu'ils prient, je m'ennuie.
C'est ça que vous avez l'impression.
C'est pas ça que j'attends des artistes, moi, qu'on me normalise la vie. J'attends qu'on me bouscule et qu'on me fasse croire qu'il y a des mondes hallucinants à découvrir et que je suis sur le carreau et qu'il faut que j'aille vers ça.
Et voilà. C'est ça qu'il s'agit de faire revivre aussi à travers cette pièce, de rendre présent cette énergie-là, ces folles années-là.
Ah ben, en tout cas, ça fait partie de ces années-là. C'est des gens qui vivent. On a l'impression. Après, on n'était pas dans leur quotidien, qui devait être beaucoup plus sordide qu'on l'imagine. Mais nous, on peut rêver d'une vie complètement débridée, folle, quand on lit le livre horrible, j'ai un trou. Mathieu Lindon.
Oui.
Ce qu'aimé veut dire, moi j'ai envie d'être sur le canapé entre Foucault et Lindon, j'ai envie de me défoncer avec eux, de parler, de rire, de jamais dormir, évidemment.
Parmi ces artistes que vous faites se rencontrer, Christophe Honoré, il y a Hervé Guibert, Bernard-Marie Coltès, Serge Danet, Jean-Luc Lagarce, Jacques Demy et Cyril Collard, des artistes qui n'ont pas tous quelque chose à voir les uns avec les autres, si ce n'est leur maladie. Est-ce qu'une maladie suffit à constituer une communauté, une famille ?
Non, la maladie fait pas groupe en fait. Ce qui là les réunit, et c'est bien pour ça que j'ai appelé le spectacle Les Idoles, c'est justement mon affection et les espèces de liens imaginaires que je projetais sur eux quand moi j'avais 20 ans et que j'étais étudiant à Rennes pour le coup et quand je les lisais ou quand je voyais leurs films, J'avais l'impression à la fois qu'il m'initiait, effectivement, et puis je sais pas comment dire ça. Ce groupe-là, c'est un groupe imaginaire, évidemment. Et donc, ils ont très peu de vraies relations entre eux. Guibert connaît Coltès, Danet connaît Demi, Danet connaît aussi un peu Collard. Mais ça a été une des difficultés, en fait, dans la mise en scène. Mais c'est pas un biopic, ce qu'on a fait. C'est vraiment pas du tout un documentaire. Mmh. Voilà, c'est l'idée, ça a été bien de rêver en fait ces figures-là, et c'est des figures rêvées qu'on propose sur le plateau.
Marina.
Oui, ils sont effectivement pas du tout liés que par la maladie, par le fait d'être des artistes quand même, le fait d'être des PD quand même à l'époque, c'est pas tout à fait comme aujourd'hui, c'est vraiment, ils sont vraiment dans une marge qui, je pense, là, pour le coup, ça, c'est une histoire commune. Et puis, leur relation au cul et à l'amour. Ils sont tous assez sentimentaux de manière différente, mais le fait d'aimer ou de ne pas être aimé, ou de raconter l'amour, les lie, non?
C'est la voix de Cyril Collard que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin, Christophe. C'était en octobre 1989 dans l'émission Lunettes Noires pour Nuit Blanche.
Tu sais, finalement, la peur, l'angoisse, elle est surtout plus grande avant, je crois. Parce que avant, tu te dis, c'est pour moi, je vais y avoir droit, quoi. Peut-être que c'est parce que c'est l'éducation judéo-chrétienne, tu as cette espèce de conscience de la faute, de la culpabilité. Moi, comme tu disais, je suis parti d'une... J'avais une voie tracée qui était une autre. Et puis, j'ai bifurqué. Et puis, peut-être qu'il y a une faute, une idée de la faute qui arrive comme ça, et que je me suis dit, voilà, c'est pour moi. Mais finalement, quand le test est fait, d'une certaine manière, on a moins peur. C'est une espèce de lutte qui commence. La lutte, elle, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas des vitamines et du cornflakes. C'est à l'intérieur de soi, la lutte. Effectivement, il y a des histoires de coke au début, et il y a de la drogue. Mais ça se termine pas comme ça. Il abandonne tout ça peu à peu. Le fait d'être séropositif, c'est pas une exclusion. Non, t'as envie de vivre, c'est tout.
C'est pour la faute, c'est pour la culpabilité que vous avez choisi.
Ouais, c'est assez terrible, parce que quand on les entend tous, Danet dit un peu la même chose. Il y a aussi ça chez Guibert. Alors aujourd'hui, justement, on se dit, tiens, c'est étrange qu'ils ne disent pas plutôt que c'est une maladie qui est subie et non pas une maladie, voilà, presque méritée. Et il y a quand même traîne chez beaucoup d'hémosexuels de cette génération-là, en tout cas chez ces artistes-là, cette idée qu'à un moment c'était pour eux, et qu'il fallait un peu régler l'addition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on peut avoir une lecture en se disant, tiens, c'est étrange qu'ils présentent pas ça comme un scandale, justement comme les militants d'ACT UP, etc. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de rencontre entre le milieu militant de l'époque et ces artistes-là, qui étaient même d'ailleurs assez mal vus finalement par ACT UP et tout ça.
C'était une intériorisation en fait de la faute, de la culpabilité liée à une perception de l'homosexualité aussi de l'époque.
Je pense vraiment que c'est ça qui est lié. Chez Collard, en fait, il y a comme ça une espèce de légende que lui-même s'écrit, il est très jeune, il a Hamatsup, il part avec son père en fait, qui était entraîneur de judo à Porto Rico, et puis là-bas en fait, il découvre les garçons, il arrête pas de coucher, et en fait, il est convaincu que c'est là qu'il a été contaminé en fait. Et donc après coup, il y a quand même toujours cette idée que le sida vient je sais pas comment dire ça. C'est comme une peine qui est infligée, mais qui aurait été décidée. Et ça, évidemment, c'est quelque chose contre lequel, en tout cas, moi, je me souviens en tant que jeune homosexuel, je détestais cette idée-là quand j'avais 20 ans. Vous saviez, il y avait cette idée du groupe à risque, par exemple. C'était vraiment quelque chose. Je trouvais que c'était d'une très grande violence, en fait, cette expression. Mais c'est intéressant. Sur scène, on parle beaucoup de ça, justement, de comment ils ont appris leur maladie, et comment après, derrière, il y avait la question de l'aveu, comme si c'était justement une faute, en fait, cette maladie, et non pas quelque chose qu'ils subissaient.
Avec quelle vision, quelle image de l'homosexualité est-ce que vous avez grandi, vous, Marie?
Bah moi, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit PD, et je sais que les gens, par exemple, Youssouf, un des jeunes acteurs de la pièce, quand je disais PD, était très choqué. Moi, je suis une génération où on disait PD, ouais. Mais j'ai grandi avec des PD qui, eux-mêmes, disait oui. Nous sommes PD. Oui. Donc voilà, moi j'ai été entourée par les hasards de la vie. J'ai vraiment grandi dans ce milieu-là, donc
comment se construit en fait son rapport à la sexualité et au désir dans ce contexte-là?
Ah ben moi je me souviens très bien de la peur, de l'urgence et aussi d'une idée de la fatalité, c'est-à-dire qu'on attendait le prochain nom sur la liste avec, on était résigné, c'était comme ça, c'était une épidémie et on pensait qu'elle allait durer. Moi si on m'avait dit dans 30 ans les jeunes baiseront tranquille sans capote, ce qui n'est pas une bonne idée. Mais c'est une réalité. Je ne l'aurais pas cru. Mmh. Ah ben non. Mmh. Et moi, j'étais de toute façon à cet âge-là, j'étais une espèce de chose. J'étais pas tout à fait finie, donc la question ne se posait pas tant pour moi, même si j'avais l'intuition que n'étant pas tox et n'étant pas pédé, j'étais un peu à l'abri.
En fait, ce qui est assez passionnant dans la pièce, je trouve, c'est que vous interrogez la responsabilité de l'artiste aussi, particulièrement en ce qui concerne la représentation de l'homosexualité et du sida. Quelle est-elle, cette responsabilité, pour vous, Christophe Honoré?
Ben, en tout cas, par exemple, sur ces 6 artistes-là, certains sont morts du sida, mais sont morts dans l'ignorance. Enfin, je sais pas, ils savaient très bien qu'ils avaient le sida, mais en tout cas, morts du sida. Par exemple, Jacques Demy est mort du sida, mais pendant des années, ça a été impossible, tout simplement.
Ce n'est que très tard qu'Agnès Varda l'a révélé. Oui.
Voilà, et comme si cette maladie, malgré tout, allait déconsidérer ou entacher son œuvre, et qu'on allait soudain se dire, ah, mais s'il est mort du sida, comment ça va avec Podane, avec cette espèce de monde merveilleux de Jacques Demy. Et aussi parce que faut bien l'admettre, en fait, se déclarer malade du sida, c'était aussi se déclarer homosexuel, et qu'il y avait une culture en fait du placard qui existait très fortement chez des artistes homosexuels à cette époque-là, malgré le fait qu'ils pouvaient être certains 68ards, que certains sont allés sur la côte est américaine, etc. et tout ça, enfin une espèce comme ça de vie a priori très libre. Il y avait une très grande difficulté à dire publiquement qu'on était un artiste homosexuel. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant à interroger dans cette pièce, c'est-à-dire que à 20-25 ans près, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que les années 90 c'était hier, et en même temps on voit bien qu'on a complètement changé de perception de ce qu'on peut attendre d'un artiste, de sa parole et de son et aussi de ce qu'il peut représenter dans une société.
Vous, quand est-ce que vous avez compris que votre travail, que vous le vouliez ou non, avait une dimension militante?
Militant, justement, même moi, je suis un peu embêté avec ce mot-là. Mais je me souviens très très bien que la première fois, en fait, que j'ai dû parler de quelque chose que j'avais créé, qui était un livre pour enfants, qui s'appelait Tout contre Léo. C'était en 96, et Tout contre Léo, ça racontait comment, dans une famille en Bretagne, en fait, un garçon de 10 ans comprenait qu'un de ses frères était malade du sida et était en train de mourir du sida, et que sa famille faisait tout pour le protéger et pour lui cacher en fait cette vérité-là. Et je me souviens très bien que dans le cadre pourtant de la littérature jeunesse, pour moi c'était important en fait de me présenter comme un écrivain homosexuel et de ne pas faire comme si ce livre pour enfants c'était l'Immaculée Conception, ou aller que c'était un livre de sujet ou de société. C'était important pour moi de parler à la première personne en fait. Et donc après je l'ai toujours fait d'une manière régulière, mais pas d'une manière je sais pas si je suis tant militant que ça. Et puis en même temps, là dernièrement quand même, il a bien fallu que je réalise que notamment au moment des lois sur le mariage homosexuel, quand j'ai vu cette espèce comme ça d'expression populaire homophobe dans les rues, tous ces gens qui descendaient etc. dans les rues pour vraiment pour justifier que c'était tout à fait logique que des citoyens homosexuels soient discriminés, qu'ils n'aient pas accès au mariage, qu'ils étaient suspects quand ils fondaient des familles. Là, je me suis dit qu'en tant qu'artiste homosexuel, j'avais une responsabilité, que je m'étais aveuglé et qu'il était temps de reprendre la parole.
Vous savez qu'il y en a une qui n'est pas du tout militante dans cette émission. C'est la culture, évidemment. La culture, je m'en foutiste et par-dessus la jambe. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 18 décembre?
Ah,
80 printemps est toujours en collant du 24 au 27 janvier prochain. Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, en partenariat avec les éditions Urban Comics, DC et Warner Bros, va célébrer Batman. Pour rendre hommage au chevalier noir le plus badass de Gotham, la manifestation invite pas moins de 3 auteurs cultes. Paul Dini, à qui l'on doit la série d'animation Batman, le dessinateur Jock, qui signe à Batman chez DC, surtout Frank Miller, créateur culte d'un Dark Knight radical et inquiétant, c'est grand.
Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut.
Plus besoin d'aller à Rio ni de monter là-haut, car Google et les équipes du Musée National de Rio, ravagées par les flammes en septembre dernier, ont réussi à reconstituer virtuellement une partie des millions de pièces parties en fumée. Amorcé en 2016, bien avant l'incendie, le projet permet aujourd'hui, grâce à l'application Google Arts and Culture, de redécouvrir certaines salles du musée et surtout de redécouvrir près de 164 pièces parmi les trésors brésiliens de l'archéologie, de la paléontologie ou encore de la zoologie, et tout ça à portée de clic, c'est très pratique. Bob is back, la légende du folk et prix Nobel de littérature 2016, Bob Dylan, est de retour en France. Il donnera 3 concerts au Grand Rex à Paris les 11, 12 et 13 avril 2019, poursuivant son Never Ending Tour. Sa tournée sans fin, entamée il y a 30 ans. Le rocker aux semelles de vent n'avait plus donné de concert en France depuis 2017 et l'inauguration de la scène musicale à Boulogne, mise en vente des tickets vendredi.
Jean, tu es là ?
Rampling de joie, l'actrice britannique Charlotte Rampling recevra un ours d'or d'honneur lors de la 69e édition du Festival international du film de Berlin qui se tiendra du 7 au 17 février prochain. Un hommage à la carrière de la comédienne francophone entamée en 64 avec Le Knack, Comment l'avoir de Richard Lester et qui se poursuivra en 2019 avec Benedetta de Paul Verhoeven. Pour l'occasion, Berlin projettera quelques-uns des films les plus marquants de Charlotte Rampling, notamment Les Damnés de Visconti et Sous le sable de François Ozon. Que du bon. Marina Foïs et Christophe Honoré, invités de Boomerang ce matin pour Les Idoles, une pièce dans laquelle, on le disait, vous inventez une rencontre entre les fantômes d'artistes disparus au tournant des années 90, Demi, Coltès, Lagarde, Servet Guibert, que vous incarnez. Marina, quel lien est-ce que vous entreteniez avec l'œuvre de Guibert, vous, au départ ?
Moi, je l'ai lu quand il est sorti, je pense, Un ami qui ne m'a pas sauvé la vie.
90
En 90 ou 11, ouais. J'avais une vingtaine d'années, c'était notre présent, donc je l'ai lu comme un doc, presque. J'en avais un souvenir flou, mais précis, je sais pas comment dire, il y avait quelque chose de l'ordre de l'émotion, mais je me souvenais plus du tout de sa langue. Là, je m'y suis intéressée de manière un peu plus scolaire, j'ai essayé de lire le plus de choses que je pouvais, et je dois dire que j'adore cette langue. Qui vous parliez de Depardieu tout à l'heure. Moi, je crois que ce que je préfère, c'est les gens qui mélangent comme Depardieu ou comme Guibert quelque chose de très trash, de très incarné, de très dans les pieds ou dans le slip, et quelque chose de très littéraire, de très lyrique, de très beau, de qui survole. Et je trouve que la langue de Guibert, elle a ça, et que ce paradoxe-là fait quelque chose qui atteint très facilement le cœur et pas seulement le cerveau. Je le recommande aux jeunes, c'est facile à lire et c'est très fort et c'est de la littérature.
Christophe, par quel texte est-ce que vous l'avez découvert, Hervé Guibert ?
Moi, je me souviens très très bien, c'était mon amoureuse de lycée qui m'avait offert Foot Vincent, ce qui était un petit peu insensé.
C'était un message.
C'était un message, Christophe. Et Foot Vincent, en fait, c'était aux éditions de Minuit, et puis les pages, vous savez, étaient attachées, en fait, parce que c'était un livre où il y avait certains passages assez pornographiques, on va dire, enfin pas pornographiques, mais en tout cas érotiques. Et c'est comme ça que j'ai découvert Hervé Guibert, et très très vite en fait il est devenu une, je sais pas, à la fois une figure qui me fascinait et puis une figure qui me terrifiait aussi, parce que effectivement en tant que jeune lecteur homosexuel, la vie rêvée de Guibert était aussi une vie qui effrayait, qui faisait peur en fait. Et puis je me souviens très très bien de l'émission chez Pivot, en fait, au moment de l'ami qui m'a pas sauvé la vie, de voir son corps détruit par la maladie, son visage détruit par la maladie. Il avait 34, 35 ans à l'époque.
Une intensité bouleversante. Ce sont les images de télévision extraordinaires.
Voilà, et c'était fou parce que je pense, on imagine mal aujourd'hui le courage qu'il faut pour aller se faire filmer et devenir Quand même, je pense, pour beaucoup de Français, le visage du sida, ça a été pendant longtemps le visage d'Hervé Guibert. Hein. Vous voyez, aux États-Unis, il y a eu Rock Hudson, etc. Nous, en France, c'était Hervé Guibert. Et je me souviens des procès en impudeur qu'on a pu faire après à Guibert et qui étaient d'une obscénité totale pour moi parce qu'évidemment, pour le coup, Guibert a fait... Enfin, c'était pas rien de se laisser filmer de cette façon-là.
Marina.
Non, mais c'est ça. Il est paradoxal. Il est son propre sujet, donc c'est un choix pas banal, mais en même temps vraiment. C'est de la littérature. D'abord, si on enquête sur sa vie réelle, par exemple quand il écrit Mes parents ou même Fou de Vincent, il y a beaucoup de fiction.
Ouais.
C'est pas un journal. Il y a son journal qui est intéressant à lire. Moi, je crois que je préfère sa littérature. Je trouve que dans le journal, on est en direct avec lui, mais je trouve que la fiction lui va très bien. Donc, il faudrait pas se mentir sur l'écriture de Guibert et dire que il ne fait que raconter ce qu'il vit. C'est très construit. Et puis, c'est une langue quand même. Par exemple, le rythme de son écriture, il devait travailler beaucoup pour que ce soit aussi musical sans qu'on s'en aperçoive, en fait.
Tiens, puisqu'on parle de rythme, vous reconnaissez Christophe? La danse, qui occupe une place symbolique importante dans votre spectacle, c'est par l'évocation d'un spectacle auquel vous assistez au début des années 90 que s'ouvrent les idoles avec cette musique des Doors, When the Music's Over. Ça vous évoque quoi? Quelles images?
Bah, c'était justement quand j'étais étudiant à Rennes, je venais de temps en temps à Paris voir des spectacles et je me souviens d'avoir vu ce spectacle de Dominique Baguet qui s'appelait Jours étranges. Moi, je connaissais pas grand-chose à la danse contemporaine. Et au cours du spectacle, j'ai compris qu'en fait, j'assistais à une danse d'après, c'est-à-dire que les gens qui étaient sur scène dansaient en hommage en fait à Dominique Baguet qui était mort quelques mois auparavant.
On écoute alors, vous êtes sur France Inter avec Marina Foïs et Christophe Honoré, on parle d'idole un mardi matin dans Boomerang.
When the music's over, when the music's over, yeah, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the over. When the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ils ont l'air sages comme des images, comme ça, pareil à deux petits écoliers venus présenter leur exposé à un examen de fin d'année. Vous savez, faut se méfier quand même de l'eau qui dort entre elle avec sa blondeur hollywoodienne et son sourire en coin, lui le cheveu ébouriffé, l'œil frondeur. C'est le genre à faire les 400 coups dès que vous avez le dos tourné, avec son petit pull noir et son, comment on appelle ça, une canadienne ou un...
Oh là là, pas ouais. Du tout, c'est un... blouson.
Un blouson, un blouson canadienne et l'autre attifé d'un foulard autour du cou. Marina Foïs et Christophe Honoré, invité de Boomerang ce matin pour Les Idoles, une pièce dans laquelle Christophe vous déclarait à nouveau votre amour à certains artistes qui ont fait de vous celui que vous êtes aujourd'hui. Je dis à nouveau parce que cette œuvre est la troisième volet en fait d'une trilogie entamée par un livre puis par le film qu'on a vu récemment. Et parmi ces hommes, il y a Jacques Demy. Vous dites notamment que lorsque vous lancez un projet de film, encore aujourd'hui, c'est toujours parce que vous avez quelque chose à lui dire, à Demy.
Oui, moi je crois beaucoup à ça en fait, que le cinéma est une manière de converser finalement avec des metteurs en scène, d'autres metteurs en scène, certains vivants, certains morts, et qu'il y a une espèce comme ça de circulation de paroles sur le cinéma. Enfin, en tout cas, chez les metteurs en scène, on va dire du cinéma d'auteur, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quelqu'un comme Demi, effectivement. Moi, je me le suis choisi un peu comme parrain imaginaire quand j'avais une quinzaine d'années, et pour le coup, j'ai pas eu besoin de brûler mes idoles. Vous voyez, c'est-à-dire que je suis resté très fidèle finalement à mes amours adolescentes. Et c'est vrai que quelqu'un comme Demi est encore très important pour moi dans mon cinéma.
Marina, quand vous montez sur scène, vous vous adressez toujours secrètement à quelqu'un?
Ah ben, et dans ce spectacle-là, moi j'ai des fantômes aussi. Il n'y a pas un soir où je ne pense pas, je ne me programme pas, mais j'ai forcément l'image d'un ami mort qui me traverse. Ça a été mon histoire en fait. Donc, et c'est intéressant parce que c'est pas le cas de tout le monde dans le spectacle. Youssouf Abi Ayad ou Harrison Arévalo, qui ont entre 25 et 30 ans, ils peuvent pas le jouer comme ça. Donc moi, je ne m'interdis pas d'avoir des pensées intimes et privées qui ne servent à rien qu'à moi-même. Et j'ai un petit dialogue. Quand même intime avec Hervé, avec Guiton, avec Guibert, avec Guy. J'ai des images. Par exemple, avant de commencer ce long monologue de à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, il y a une séquence où je me rhabille. J'ai toujours l'image de la pudeur ou l'impudeur, où on voit Hervé Guibert qui pèse 1,5 kg et qui met à peu près 25 minutes à remettre son jean. Moi, c'est très concret et j'ai l'impression, mais c'est un peu ridicule, mais c'est un moment que je consacre à Hervé. Il y en a un autre, il y a une position allongée qui est pareille dans la pudeur ou l'impudeur. Il passe un coup de fil et il a la main sur la tête comme ça. Et à un moment, je suis dans cette position, c'est la position à Hervé.
J'ai l'impression qu'à travers ce spectacle, Christophe Honoré, vous dites aussi quelque chose d'un sentiment d'extrême solitude, d'un certain isolement en tant qu'artiste, en tant que cinéaste, auquel il faudrait remédier.
Oui, mais ça, très honnêtement, je pense que ça c'est plus c'est ma nature en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de cinéastes qui fonctionnent en groupe, par exemple dans le cinéma français, et qui sont plutôt moi j'ai assez peu d'amis cinéastes. C'est vrai que je ça m'arrive assez rarement finalement de parler métier avec des gens. Étrangement, j'ai plus de facilité à parler avec des comédiens ou des comédiennes. Par exemple, quelqu'un comme Marina, on a travaillé ensemble il y a longtemps déjà maintenant sur Non ma fille. Avant de travailler en fait sur ce film, on se connaissait. Et, je veux dire, on a une espèce de dialogue continu comme ça qui finit où on finit par se rencontrer en fait sur des films, mais on dialogue régulièrement. Ce principe de solitude. Oui, il y a toujours, en tout cas, enfin, je pense que j'ai le fantasme du groupe, c'est-à-dire que le nouveau roman m'intéresse beaucoup, la nouvelle vague m'intéresse beaucoup. Je crois toujours un peu à cette idée de l'émergence collective d'artistes.
D'être ensemble.
Voilà, d'être ensemble. Et moi, j'appartiens à une génération de cinéastes ou d'écrivains où notre émergence s'est faite d'une manière solitaire et où finalement ces groupes-là n'existent plus.
On va rester ensemble pour vous entendre, Marina Foïs, nous dire un texte d'Hervé Guibert, un texte tiré de ce spectacle pour nous faire entendre sa voix. Peut-être c'est un montage, effectivement, d'un ami qui ne m'a pas sauvé la vie. On vous écoute.
C'est un exercice compliqué, hein.
Je sais.
J'essaye de le faire le plus purement possible. Ça se dit, purement?
Oui.
Jamais autant senti d'amour pour Thierry et d'impuissance à le lui manifester. Thierry a été ma jeunesse et j'ai été la sienne. J'avais 3 livres en chantier, c'était un peu trop, mais tant qu'ils restaient en chantier, ils étaient un prétexte pour ne pas me tuer. Un titre, L'odeur des garçons, un autre titre, Des hommes qui aiment les pieds. Il y avait des journées vides où j'avais l'impression d'avoir été oubliée du monde entier. J'enviais ces journées pleines que je maudissais lorsqu'elles l'étaient. Une folle, au café, m'a palpé la cuisse pour évaluer à quel point je suis maigre. Je suis tombée sur le nez ce matin en glissant sur le carrelage de ma salle de bain. Ensuite, impossible de me relever. Chiasse, fièvre, tristesse. « Vous pleurez ?» m'a demandé le psychiatre. « Non, j'y arrive plus. » Il faut que je meure le plus tard possible pour Thierry et Christine, parce que tant que je resterai vivant, la maladie restera dans mon camp et ne tombera pas dans le leur. Thierry est passé cet après-midi. Il m'a fait prendre un bain. Cytomégalovirus, hospitalisation. Je crains qu'il me fasse dormir dans des draps en papier sous une couverture synthétique. Autrefois, on me disait « Vous avez de beaux yeux ou t'as une belle bite ?» Maintenant, des infirmiers me disent « Vous avez de belles veines. » Le médecin, la jeune femme à l'accent étranger qui a fait l'échographie abdominale, a dit à son assistant, debout et penché derrière elle devant l'écran « Regarde là, comme c'est beau. » J'étais quelqu'un qui n'arrêtait pas de s'échapper de là où il était. Et là, je suis dans une chambre d'hôpital, rivée à un pied de perfusion et à une aiguille plantée dans ma chair. Quel sens cela peut-il avoir? Pourquoi voudrais-tu que ta vie ait un sens? M'a répondu Christine. Je lis que l'antiviral qu'on me perfuse tous les jours bloque à jamais la reproduction du sperme. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, du foutre, à présent? Ce soir, Thierry s'est allongé et collé contre moi. Il a pleuré dans mes bras. C'était pire que la suffocation que j'ai eue à l'endroit du cœur après qu'on m'a troué un poumon avec une seringue. Maintenant, quand il y a un vieux personnage dans une histoire que je lis, il me rend terriblement nostalgique de ce que je ne serais pas. J'ai bafouillé.
Pas trop.
Si.
Avec Hubert, il écrit que rien ne le fait plus pleurer, qu'il n'y arrive plus.
Ouais, alors ça me bouleverse. Parce qu'en plus, il le dit, je pense que si... Enfin, je m'imagine qu'il le dirait comme ça, comme il dirait autre chose, de pas si grave. Alors qu'en fait, ça veut dire qu'il est... Pour moi, ça raconte vraiment qu'il est au bout, à un endroit... Oui, là, bah, c'est un peu ce que dit ce texte, quoi.
Qu'est-ce qui vous fait pleurer, vous, Christophe?
Là, d'écouter Marina, mais aussi tous les soirs, en fait, tous ces acteurs, et ça me permet de les citer, Marlène Saldana, Jean-Charles Clichet, Julien Honoré, Harrison Arevalo... j'arrive jamais
alors,
à dire.
Alors, Harrison Arevalo, c'est
Teddy
un...
Bogart,
hein,
et Youssouf Abiyayad... Tous les soirs, en fait, ces comédiens me font pleurer. Il me faut aussi énormément rire, et c'est d'ailleurs, je crois, cette alternance en fait qui me fait pleurer, parce que de voir soudain en fait ces figures, si même si elles sont des figures rêvées, heureuses et joyeuses sur le plateau, en fait, finalement, c'est ça qui provoque pour moi la plus grande émotion.
Merci infiniment à tous les deux d'être venus.
Merci.
Faire cette émission, faire un tour dans cette émission. Merci pour cette parole. Aussi, je rappelle que Les Idoles, votre nouvelle pièce, Christophe, avec vous, Marina, évidemment, avec tous ceux que vous venez de citer également, sera au Théâtre de l'Odéon à partir du 11 janvier jusqu'au 1er février, puis à la Comédie de Caen, les 6 et 7 février, puis à Montbéliard, les 14 et 15. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia, vous m'entendez?
Ouais, on est là, au grand complet. À demain, Augustin.
À demain, Sonia.